notre invité du jour est quelqu'un que j'apprécie énormément, par son, mais même pas que par son talent, mais aussi par sa façon de voir les choses, de plein de choses. Voilà. Je trouve que Imani fait partie de ces artistes qu'il faut laisser parler tout le temps. Elle a toujours des bonnes choses et des belles choses à dire. Comment ça va, Imani ?
Ça va super.
Moi, je suis très content de t'avoir ici. Voodoocello, c'est l'album, la réédition, des titres inédits, mais surtout un truc de dingue. Et une idée, moi, je me suis posé la question, mais à quel moment tu décides de mettre autant de violoncelle et de partir sur ce concept-là, avant même... Est-ce qu'il y a eu d'abord le premier truc, c'est de te dire, je vais faire des reprises de chansons qui m'ont marqué dans ma vie, en famille et tout ça, et après, je mets le violoncelle, ou d'abord, l'idée est venue de travailler cet instrument qui est assez incroyable?
C'est les deux en même temps. En fait, j'ai voulu faire un projet de cordes. Je voulais faire un projet de cordes. J'avais écouté le premier album des Vitamine Quartet à l'époque. C'est un quatuor à cordes américain qui font des reprises, mais que instrumentales. Mais eux, ils font des reprises d'albums entiers. Ils vont prendre l'album entier, un album entier de Nirvana, un album entier de Tupac, en fait, des choses hyper diverses. Et du coup, ils nous montrent à quel point un certain type de musique qu'on ne pensait pas mélodique, le son. Enfin, le son vraiment. Et donc ça m'a vraiment ouais, ça m'a touché, et je me suis dit, mais ce qui manque, c'est une voix. Et donc je me suis dit, ce qui serait génial, c'est de faire un projet de cordes de reprise, mais qu'avec des cordes, justement pour apporter une nouvelle lecture à des chansons qu'on connaît, et à la fois ouais, les honorer, quoi, d'une certaine manière. Les Américains, ils appellent ça tribute album, et je trouve que l'appellation, elle est mieux que album de reprise, que c'est plus un album qui honore des chansons qui vous ont fait quelque chose à un moment de votre vie. Enfin, dans mon cas, c'était une manière de revenir à la musique dans la manière la plus élémentaire pour moi, parce que j'avais fait un burn-out à cause d'une carrière un peu bien chargée, et j'étais écœuré de la musique, je voulais arrêter. Et donc, je suis revenu aux bases, c'est-à-dire avec des chansons qui m'ont donné envie de faire ces métiers. Donc, c'est les deux en même temps.
Parce qu'on rappelle quand même que Imani, quand elle sort des disques, c'est 1 million d'exemplaires, c'est numéro un dans je sais pas combien de pays avec Don't Be So Shy, c'est de la folie. Mais c'est aussi, bien sûr, voilà, on oublie de penser à ses tournées promo, à ses dates de concert, c'est fatigant, c'est usant. Quand on a une famille aussi, on est jamais là. Et ça, c'était important de repartir sur quelque chose qui est important pour toi, c'est-à-dire la musique. Et comment tu as fait pour choisir les titres? Parce qu'ils sont, voilà, il y a du Donna Summer, Dance Monkey, il y a Black, il y a... quels sont les motifs? Il y a une histoire sur chaque chanson que tu as choisie?
Il y a une histoire sur chaque chanson, mais elle n'est pas toujours à profondeur égale, je dirais.
D'accord.
Il y a des chansons comme Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler, qui est une chanson avec laquelle j'avais envie de commencer à arranger ce projet, parce que je savais où est-ce que j'allais aller, que c'est une chanson, quand j'étais petite, vraiment quand j'avais 6 ans, je la chantais. Et dans la rue, je la chantais en chewing-gum. Je connaissais pas les paroles, je parlais pas anglais, mais c'est une chanson qui me touchait au plus fort de moi, donc elle était importante. C'était important de faire Like a Prayer aussi, pour des raisons à peu près similaires. Mais par exemple, Dance Monkey, j'avais envie de... On s'est vite aperçu que le répertoire, il était générationnel quelque part. Et moi, j'avais pas envie de parler qu'à une seule génération. Donc, je suis allé chercher dans les années 2000 aussi, dans les années 2010, les chansons qui étaient fortes, que je pouvais défendre, pour que tout le monde s'y trouve inclus, et puis moi aussi, à vrai dire, parce que c'était pas... Donc voilà pourquoi on prend une chanson comme Dance Monkey, parce que ça a l'air d'une chanson pop par excellence, c'est-à-dire où il n'y a pas grand-chose dedans, mais si on la fait jouer par des violoncelles, eh ben on entend autre chose, en fait. On entend plus une chanson sur le burn-out qu'une chanson pop sur laquelle on a envie de danser le soir.
Comment on recrute les violoncellistes en leur expliquant clairement que, parce que c'est toi qui as l'idée de l'album, mais aussi de la tournée, et qu'ils vont bouger. Un violoncelle, ça bouge pas. Là, tu les fais bouger sur scène. Il y en a quelques-uns qui se sont sauvés en disant c'est pas possible. Comment l'idée vient? Parce qu'elle est folle.
En fait, l'idée vient parce que je me dis, moi, quand je vais voir des spectacles de musique classique, à un moment donné, je suis toujours un peu... Ouais, je suis toujours un peu saoulé, parce qu'ils sont là, ils lisent leur partition, ils regardent le chef d'orchestre, et nous, on est là, on les regarde, et en fait, il y a quelque chose qui est perdu. Donc, à moins de fermer les yeux pendant 1 heure et demie de concert, Bah, je finis par m'ennuyer et décrocher et passer à côté de ce qui est important. Donc, du coup, je me suis dit, ce qui serait génial, c'est qu'il puisse se lever, qu'il puisse bouger, qu'on puisse vraiment faire un concert rock, quoi. Donc, avec un de mes musiciens, on a inventé un objet qui nous permet, qui leur permet, parce que moi, je ne joue pas de violoncelle, qui leur permet de jouer du violoncelle, s'asseoir et se lever sans problème. Il y avait déjà des choses qui existaient, mais c'était trop compliqué. Il y avait des harnais, enfin, c'était vraiment hyper technique. Ça nous aurait empêché de faire le projet, parce que le projet, il est très dansant. Donc, les violoncelles, ils jouent et ils dansent et ils courent et ils font plein de choses en même temps. Et c'est absolument génial. C'est une vraie révolution pour eux parce qu'eux, ils ont appris pendant 30 ans à perfectionner le geste, à jouer assis. Et moi, je leur dis, oubliez tout et apprenez à marcher. Donc, c'était vraiment quelque chose, ils ont dû se dépasser. Donc, au début, je pense que dans mon dos, ils m'ont insulté plein de fois. Ils m'ont dit, elle est folle, elle est chiante. Bon, voilà, moi, j'ai toujours cru en eux. Et puis, ça a fini par payer. Puis, aujourd'hui, ils sont contents parce qu'ils se sont dépassés. Il n'y a rien de plus beau, quoi. Et voilà, c'est une micro-révolution tous les soirs avec l'espoir que ça devienne une micro-révolution pour les gens qui nous regardent. Parce que c'est ça, l'art, en fait. C'est un transfert d'énergie. Et qu'est-ce que ça éveille en vous? Qu'est-ce que ça ouvre comme porte, quoi?
Les contraintes, c'était aussi sur l'album, puisque quand on écoute l'album, on se dit, bah, il y a quand même des petites choses, il y a peut-être une batterie, il y a non, en fait, même le violoncelle a servi, tu as rajouté des cuillères, des choses sur le violoncelle pour en faire de la musique, en fait.
Oui, je suis allée pomper les idées dans la musique contemporaine. Même moi, je me suis vraiment éduquée parce que c'est quand même pas ce que j'écoute. C'est pas ma musique originelle. Donc, je suis allée voir ce qui se fait en musique contemporaine. Et il y a des trucs de dingue. Ils prennent des marteaux, des scies, enfin, genre, des trucs de fou sur un instrument comme le violoncelle. Ils le désacralisent complètement. Donc, ça m'a complètement décomplexée. Et de fait, on a trouvé des cuillères. On prend des balais de batterie. On tape sur le violoncelle pour que ça fasse voilà, un son de caisse claire. On a même inventé, on a coincé une feuille de papier A4 dans les cordes et avec
Ouais.
deux archers, ils tapent, ben ça fait un bruit de caisse claire militaire. Enfin, on s'est vraiment amusé, on s'est mis au. La seule contrainte que je me suis mise, c'est 8 violoncelles, pas plus. C'est-à-dire que quand vous commencez à arranger un projet au violoncelle en se disant il faut que ça sonne comme un basse, batterie, guitare. Le réflexe, c'est de mettre des couches, des couches, des couches, des couches, des couches, puis on se retrouve à 16 violoncelles. Et on se disait, mais non, mais c'est pas possible, puisqu'en fait, il faut qu'il y en ait que 8 qui jouent. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas d'effet de loop, il n'y a pas d'effet d'octaveur, de choses comme
Ouais.
ça. C'est vraiment, on a fait à l'intérieur de ce que 8 violoncelles pouvaient offrir. Donc ça, c'était une contrainte. Et des fois, on vraiment se grattait la tête très, très fort. Mais sinon, en ce qui concerne ce que le violoncelle pouvait nous donner, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait. La seule chose, c'est que j'ai rien fait d'électronique. On l'a sonorisé, mais on est vraiment dans l'acoustique. Et c'est pour ça que c'est génial cet album, parce qu'on dirait pas.
Non, c'est dingue quand on
On entend que
écoute,
c'est de l'acoustique, mais.
ouais. Et puis alors c'est le violoncelle, il paraît que c'est aussi l'instrument qui se rapproche le plus de la voix. De la voix humaine, et c'est vrai que du coup on a l'impression qu'il y en a neuf avec toi, ça donne quelque chose d'assez dingue. Il y a des reprises aussi de Brel en anglais, qui est super belle, cette chanson, elle est énorme. Puis il y a cette chanson qui est dans l'album un peu grâce à ta maman, Wild World, clairement,
Ouais. Oh,
c'est
ouais, Wild World,
en
j'adore cette
version,
chanson, je voulais la faire.
mais avec une version voilà assez dingue que tu connaissais pas. C'est ta maman qui t'en a parlé en fait.
En fait, oui, j'avais fait la version que tout le monde connaît. Au départ, j'avais fait 3 versions et j'arrivais pas à les arrangements. Je trouvais que j'apportais rien. Donc, j'étais vraiment à 2 doigts de laisser tomber, de pas la mettre, de pas continuer. Et je l'ai mise comme ça chez moi. Voilà, j'écoutais sur les enceintes pour me faire une idée. Et ma mère me dit, ah, mais c'est une chanson comorienne que tu as fait en anglais. Et puis je lui dis, bah non, c'est Cat Stevens. Et elle m'explique que quand elle était jeune, il y avait une version comme ça qui existait en comorien. Et c'était un artiste, Abou Shouaib, qui s'appelle Comorien, qui avait fait une reprise comme ça à la radio. Alors on a cherché partout cette version. On a même trouvé l'artiste qui a dit que il avait fait une version comme ça à l'arrache sur un coin de feuille pour faire plaisir à l'animateur. Il s'en rappelle pas. Donc résultat, ben, je me suis dit je vais faire une adaptation, ma version à moi, avec du comorien et ma mère et ma cousine qui sont complètement bilingues comoriens. Moi je parle comorien comme une fille qui est née en France, hein. Donc du coup elles m'ont aidé à traduire ma version et j'en ai fait une version beaucoup moins paternaliste quand même que la version de Cat Stevens, qui est quand même une version d'un mec qui dit à une femme, bon bah bonne chance dans ce monde pourri sans moi, quoi, en gros,
Ouais,
voilà.
c'est ça, ouais.
T'avais pas qu'à me quitter. C'est pas génial. Donc c'est aussi pour ça que je crois que j'avais du mal à la défendre. Et en fait, avec la version comorienne, c'est plutôt une mère qui parle à sa fille et qui lui dit que, oh baby, baby, it's a wide world. Fais attention, le monde est assez dangereux. Mais tant que tu sais que tu as été aimé, que tu es aimé, il y aura toujours un endroit où tu pourras toujours venir. Et cet endroit, il est en toi, quoi. Et donc, il faudra pas le dire à Cat Stevens, mais j'ai un peu détourné son propos.
Mais je suis sûr qu'il va kiffer. Et qu'on kiffe, nous, dans tous les
Bon, il
cas.
nous a autorisé à le faire, en tout cas.
Donc,
Déjà, on n'a pas
déjà,
fait sans
c'est pas
autorisation.
mal. Et puis, il y a toujours une histoire Imani assez dingue. C'est souvent venu des pays de l'Est. Il y a un truc qui se passe avec toi. Il a eu la même chose avec Dambi Sochai. Tu te retrouves sur ton titre sur Netflix, sur une série polonaise. Et bam, c'est reparti pour un tour. Cette histoire elle est dingue, puisque c'est la deuxième fois. Il y avait Dambi Sochai qui était parti aussi comme ça. Je me souviens, on en avait fait une interview.
Avec les Russes.
Avec les Russes, et là, une série polonaise s'appelle Detective Forst, et je regardais ce matin encore, et Dombi Sochai est encore dans le top 40 ce matin du Shazam France. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que les trucs s'arrêtent jamais. Ça te fait rire maintenant, franchement. C'est marrant de se dire que...
Bah, c'est drôle, mais c'est incroyable surtout.
Et surtout, t'entends toutes les radios qui l'ont pas forcément joué au départ, qui sont tous en train même les grosses radios
De la
nationales,
jouer,
de la jouer alors
ouais.
qu'il y a quoi, un an ou deux, bon, voilà, puis là, ça y est, c'est parti, c'est
Il y a
marrant.
3 ans,
Il
ouais,
y a
non, mais
trois ans,
c'est.
c'était,
Ouais.
ouais, c'est...
Bah, en plus, c'est pareil, dans Bissocha et les Français, au début, ils n'en voulaient pas. Hein. C'est-à-dire
Non,
que
non, non, c'est clair.
quand le remix. Bon, dans Bissocha, l'histoire de Bissocha, elle est encore plus folle parce que c'est carrément des Russes qui vont prendre un titre qui existe dans la musique de Sous les jupes de filles, des filles qui est. La version, les voix Wurlitzer, toute simple, hyper épurée. Ils décident de même d'en faire un remix comme ça se faisait beaucoup à cette période parce que Azaf Avidan, il avait eu ça. Il y avait ce groupe français aussi dont j'ai oublié le nom, ils avaient eu ça. Et donc c'était un peu à la mode. Ça a commencé ces trucs de les prendre des titres à
Ouais.
folk et d'en faire un remix. Donc quand ça prend feu, on va dire, dans les pays de l'Est, au départ les Français, ils sont les derniers à le jouer en fait. Et finalement, bah, du coup, ce titre, il a eu une vie très très longue parce qu'en fait les pays se sont réveillés les uns après les autres. Mais donc c'est numéro un, je sais pas, une vingtaine de pays, c'est incroyable. Et alors, Détective Frost, c'est encore plus drôle parce que oui, le titre, finalement, on était en train de passer à autre chose, à notre album, une fin de tournée, etc. Et bon, les Polonais m'aiment beaucoup. J'ai été numéro un avec le premier album avec You Will Never Know. J'ai été numéro un avec Don't Be So Shy avec le deuxième album. Ils me considèrent, ils me mettent à une autre place, quoi. Et
Ouais, tout
donc,
à fait.
voilà, la Pologne, la Grèce, l'Italie, c'est ça comme ça aussi, la Russie. Je peux pas l'expliquer, les pays de l'Est, ils ont un truc avec moi.
C'est là.
J'ai une carrière internationale depuis le début, en fait. C'est pas un truc
Ouais.
qui est arrivé avec Don Bissochet. Avec Don Bissochet, ça a
Ça a
explosé,
explosé, mais
mais
dès le début, en
déjà,
fait, hein,
ouais.
dès le début de la carrière, ça a été très,
Ouais.
très vite. Il s'est passé un truc, ils se sont appropriés, en fait, ta musique. Et ça s'arrête jamais. Et ça, c'est cool, parce que franchement, c'est énormément de talent.
C'était génial. J'étais en Grèce en vacances l'année dernière et ma copine américaine demande au chauffeur du taxi si il connaît You Will Never Know. Il s'est retourné, il a dit ma grand-mère connaît You Will Never Know. Donc c'est devenu un classique.
Ouais,
C'est
c'est
devenu un
clair.
classique. Et même quand tu parles aux Grecs, ils disent mais c'est une chanson grecque ta chanson. Voilà pourquoi elle marche. Et c'est ça les classiques, c'est qu'en fait
À tout le
ça
monde.
parle carrément à la culture quelque part.
Donc l'album s'appelle
C'est une
Voodoo
chance.
Cello, la tournée Dépêchez-vous, c'est il reste les festivals, et puis après c'est reparti pour un... T'as déjà l'idée de la suite ou
Ouais,
parce
j'ai
que tu
déjà
prends
pas mal d'idées
en
pour la
10 ans
suite.
c'est 3 albums, tu prends ton temps, mais est-ce que là ça va aller plus vite? Enfin quoique dans celui-là ça fait 3 ans aussi, donc on est
Bah, ça va faire à peu près pareil. Bah, je prends mon temps parce que si vous voulez, j'essaie d'expliquer aux gens et aux jeunes surtout que on fait de l'art, on fait pas du commerce. Bien sûr que on va devoir le vendre à un moment donné parce il faut payer nos factures. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est faire un truc que je peux défendre, qui me plaît, et je peux pas tout faire en même temps parce que d'abord j'ai des enfants et ensuite, bah, après je le défends sur les tournées. Un projet comme Voodoo Cello, c'est énormément de travail. J'ai dû tout arranger. Le spectacle, c'est un vrai spectacle. C'est pas juste on plante un micro et on chante. Comme j'essaie de faire un travail de qualité, ça demande du temps, en fait. On ne peut pas faire un bœuf bourguignon en 5 minutes au micro-ondes. Voilà.
Non, c'est clair.
Donc, c'est la même chose. Et le prochain projet, j'ai déjà des idées. Je suis déjà en train de les mettre en œuvre. Mais je vous dirai rien.
Bah non, je le sais. Mais en tout cas, on se fait plaisir d'attendre. On sait, voilà. Et si vous avez le temps de passer sur des dates, voilà, des festivals, allez voir les derniers parce que vous allez kiffer. Sinon, allez sur les plateformes, allez écouter Voodoo Cello parce qu'il est énorme. Il y a des titres qui ont été rajoutés, bien sûr, sur la version qui est ressortie il n'y a pas longtemps. Et puis, n'hésitez pas, voilà, écoutez, bon, écoutez tout Imani parce que c'est énorme. Moi, je suis fan depuis le début et... Et n'attendez pas que les Russes fassent des remixes pour écouter les chansons.
Merci. Là, ils vont pas en faire tout de suite. Hein.
Non, non, mais bon, il y a les Polonais voilà. Maintenant. Ça va descendre. Peut-être qu'à un moment, un Français fera un remix ou un Grec.
Peut-être, ouais.
Affaire à suivre. Merci beaucoup, Imani.
Merci.